Lors de la dernière soirée, nous avons commencé à parler du culte chrétien. Nous savons que le Christ, en tant que vrai homme et vrai Dieu, est le seul et unique pont entre l'humanité et la divinité. C'est pour cela que le culte que la création rend envers le Créateur, elle passe finalement dans le Christ. C'est dans le Christ qu'il va se réaliser. Nous avons un peu évoqué de quelle manière l'Esprit Saint nous connecte à Jésus pour que notre prière et pour que toute notre vie entre finalement dans ce culte parfait. L'Esprit Saint nous rejoint chacun dans le secret de notre cœur, dans notre offrande personnelle. Il y a cette dimension individuelle, toujours essentielle. Mais il nous invite également à nous réunir en communauté, pour sentir une présence nouvelle du Christ au milieu de nous. C'est tout ce que nous vivons dans la vie liturgique de l'Église. Et au sommet de notre expérience cultuelle, du culte chrétien, il y a le mystère de l'Eucharistie, par lequel le mystère pascal de Jésus nous rejoint et nous transforme d'une manière décisive. L'Eucharistie, nous allons un peu développer ce soir, l'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne. L'Eucharistie est la source, car elle contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire elle contient le Christ lui-même. Nous rejoignons le cœur ouvert de Jésus sur la croix, d'où découle toute la grâce. L'Eucharistie est le sommet de la vie chrétienne, car elle réalise et signifie, elle montre tout le projet de Dieu, la communion de vie avec lui et l'unité du peuple de Dieu. Dans l'Eucharistie se réalise le don du Christ par lequel il sanctifie le monde et au travers duquel l'Église s'offre au Père par son Fils dans l'Esprit. C'est vraiment le sommet du culte que l'humanité doit rendre à Dieu. Et c'est la vie de la Trinité qui entre pleinement dans la création. L'Eucharistie est donc source de la vie de l'Église, car elle contient le Christ d'une manière tout à fait particulière et plénière. Nous avons déjà dit que l'Esprit Saint nous met en contact avec Dieu, dès que la foi est présente, bien sûr. Dans ce contact, Jésus est toujours spirituellement présent et agissant. Il l'est aussi et surtout dans la puissance des sacrements, et par-dessus tout, dans le sacrement de l'Eucharistie. Le baptême et la confirmation sont premiers et essentiels pour nous connecter à la vie de Jésus, mais lui-même explique qu'il s'agit de lui être uni dans l'Eucharistie pour devenir pleinement vivant. Il est intéressant de lire tout le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, qui vient juste après la multiplication des pains. Si vous avez l'occasion, lisez tout ce chapitre. Je prends juste un petit extrait de ce chapitre 6. « Moi, je suis le pain de la vie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. » Nous voyons que Jésus évoque la communion avec lui sous cette forme de mendication, manger, boire, qui est tout à fait concrète et qui rejoint l'Eucharistie, qui s'exprime dans l'Eucharistie. Nous croyons que dans l'Eucharistie, le pain et le vin sont changés dans tout leur être, dans toute leur substance. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont transsubstanciés. Ils deviennent réellement la chair et le sang du Christ. Jésus est vraiment présent dans sa nature humaine glorifiée, corps et âme, toujours unis à sa divinité. Par ce sacrement, nous sommes unis en profondeur à sa nature divine. Dans l'Eucharistie, Jésus réalise sa promesse « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Pour désigner l'Eucharistie, il y a en fait plusieurs mots, plusieurs expressions que nous utilisons. Et ces différents mots nous permettent de sentir différents aspects de ce mystère. Alors, si j'utilise le mot mystère surtout, on l'a déjà croisé souvent, c'est vraiment dans le sens fort, puisque c'est une plongée dans une réalité qui nous dépasse, qui a une dimension divine. Une réalité que nous ne pouvons percevoir progressivement que dans l'expérience de la foi. Pour entrer dans le mystère de l'Eucharistie, nous allons commencer par parcourir un petit peu différents termes que nous utilisons. Alors d'abord l'Eucharistie, qui signifie en grec l'action de grâce. Alors la célébration de la Pâque juive, autrefois, était déjà une action de grâce, au travers de laquelle le peuple remerciait le Seigneur pour ses œuvres. Il bénissait Dieu en retour de ses bénédictions. Pour la création et pour le salut manifesté dans la sortie d'Égypte. Dans sa Pâque, la nouvelle Pâque, Jésus élargit encore cette action de grâce, car elle est aussi louange pour l'œuvre du salut qu'il réalise par sa mort et sa résurrection. La Pâque nouvelle, lui seul, dans son cœur d'homme parfait et pur, peut donner au Père la louange digne de sa perfection. C'est l'Eucharistie du Christ à laquelle nous nous unissons. Nous utilisons le terme aussi de repas du Seigneur. Parce que Jésus a institué ce mystère dans la scène, dans le repas pascal avec ses disciples, à la veille de sa passion. Dans le repas, nous trouvons ce signe de la fraternité et du partage que Jésus a souvent illustré dans son ministère. Ce repas du Seigneur est aussi déjà une annonce et une anticipation du repas des noces de l'agneau qui nous attend dans l'éternité. Car dans la célébration de l'Eucharistie, nous sommes déjà en contact avec l'Église du ciel, qui rend son culte éternel à l'agneau immolé. C'est déjà pour nous le banquet pascal qui est présent et qui nous attire vers lui. Nous parlons aussi de fraction du pain. Alors, ce signe de la fraction du pain est propre au repas juif. Il a été utilisé par Jésus lorsqu'il bénissait et distribuait le pain. Il y a toujours ce moment de la fraction du pain. Nous pensons surtout aux multiplications des pains et à la dernière scène, bien sûr. C'est à ce geste, à la fraction du pain, que les disciples le reconnaîtront après la résurrection à Emmaüs. C'est cette expression que les premiers chrétiens utiliseront le plus souvent pour désigner l'assemblée eucharistique. La fraction du pain, c'est le signe d'une même vie qui se partage. Il signifie par là que tous ceux qui mangent à l'unique pain rompu, le Christ, entrent en communion avec lui et ne forment plus qu'un seul corps avec lui, en lui. Nous parlons aussi du mémorial de la passion et de la résurrection du Seigneur. Mémorial, alors Jésus a explicitement indiqué « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est dans le rappel de son don d'amour que ce don se rend présent, pas seulement comme un souvenir, mais comme une réalité actuelle, une réalité en action. Parce que ce don d'amour, Jésus l'a effectué pour la multitude, pour nous. En célébrant ce mémorial, nous entrons dans l'aujourd'hui où il se donne pour chacun de nous. Parlons aussi du Saint Sacrifice. du sacrifice de l'Eucharistie, parce qu'il rend actuel l'unique sacrifice du Christ Sauveur, dont nous avons déjà parlé, qui est actuel non plus d'une manière sanglante et violente, comme il y a 2000 ans, mais dans la douceur des signes du sacrement. Ce sacrifice du Christ est aussi celui de l'Église qui s'unit à lui. Il inclut l'offrande de l'Église. C'est le sacrifice parfait, pur et saint, celui qui achève et qui dépasse tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Le sacrifice qui répare, par une obéissance d'amour parfaite, toutes les conséquences du péché, comme nous l'avons déjà dit. Car Jésus a pris sur lui toutes nos fautes librement et s'est offert par amour. Nous parlons aussi parfois de sainte liturgie ou de divine liturgie. Alors c'est surtout dans les églises orientales qu'on parle de la divine liturgie. Parce que au travers de la liturgie de l'Eucharistie, l'Église est vraiment en contact intime avec la vie divine. C'est vraiment la divine liturgie qui est présente. On l'appelle aussi célébration des saints mystères. Parce que par-delà tous les mystères de la foi chrétienne, tous les aspects de la vie chrétienne, il y a ce mystère de Jésus dans l'Eucharistie qui inclut tout, puisqu'il inclut la source. C'est Jésus la source. Lors de la célébration, juste après que le changement de substance ait eu lieu, que Jésus arrive sur l'autel, nous chantons: il est grand le mystère de la foi, car c'est Jésus lui-même dans sa vie et son œuvre, c'est tout le mystère de la foi qui est vraiment présent dans ce sacrement. On parle aussi parfois du très saint sacrement, aussi parce que c'est le sacrement par excellence, le saint sacrement, et on désigne en particulier de ce nom les hosties consacrées que l'on garde dans le tabernacle. On parle aussi, et bien sûr, de la communion, ou la sainte communion, parce que c'est par ce sacrement que nous nous unissons au Christ, qui nous rend participants de son corps et de son sang, qui nous fait former avec lui un seul corps. C'est le moyen de la communion avec Dieu et entre nous. Et nous parlons de la messe, c'est le terme que nous utilisons le plus souvent. Ce mot de messe qui est lié en fait au tout dernier mot de la célébration, lorsque les fidèles sont envoyés en mission, ça vient de ce terme-là, ils sont envoyés en mission pour accomplir la volonté de Dieu dans leur vie quotidienne, dans la suite de leur journée, de leur histoire. Car le culte se continue et se prolonge dans toute la vie chrétienne, c'est ce que nous avons déjà dit. Alors il y a encore d'autres expressions qu'on ne va pas forcément développer, le pain des anges, le pain du ciel, médicament d'immortalité, le viatique, c'est la nourriture pour le chemin, puisque l'Eucharistie nous accompagne tout le long de notre chemin. Il y a encore l'expression importante, le sacrement de l'amour, car il nous connecte à l'offrande d'amour du Christ et à sa vie éternelle qui est communion d'amour avec le Père dans l'Esprit-Saint. Avant d'entrer un petit peu dans le mystère de la messe, un mot d'abord sur quand célébrons-nous l'Eucharistie. Alors nous célébrons l'Eucharistie principalement le dimanche, le jour du Seigneur, le jour de sa résurrection. Chaque dimanche est d'abord la célébration de cette résurrection, une célébration qui est teintée des différents mystères de la vie du Christ que l'Église ravive au cours de l'année liturgique. Cette année que nous connaissons, elle est structurée par deux grands cycles. Il y a un cycle autour de la nativité du Seigneur qui dure 5 à 6 semaines, et le cycle autour de Pâques, dans lequel nous allons bientôt rentrer avec le carême, qui dure 13 semaines, qui est plus important. Le reste de l'année, le temps dans l'année, que nous traduisons le temps ordinaire, il est marqué par l'attente du retour du Seigneur dans l'espérance. Car nous avançons toujours vers ce moment de la rencontre avec le Seigneur. C'est l'horizon de notre vie de croyant et l'horizon de toute la temporalité que l'Église vit et développe. Alors il n'y a pas que les dimanches, il y a aussi des célébrations en semaine, parfois à des dates fixes, pour des fêtes importantes, des fêtes, parfois des fêtes d'obligation, c'est-à-dire des fêtes si importantes que les chrétiens sont tenus d'y participer, sont aussi importantes qu'un dimanche. Et au fur et à mesure que la vie liturgique de l'Église s'est développée, il y a une liturgie de la messe qui a été prévue pour tous les jours de l'année, finalement. Alors bien sûr, pour les fidèles qui sont libres d'y participer, toujours, mais surtout pour les religieux et ceux qui sont consacrés d'une manière particulière au culte. Alors je vous propose de voir ce soir, dans ces grandes lignes, la structure de la messe, même si tous vous avez déjà une expérience de la messe, même plus longue que moi pour certains, je pense. Mais c'est important de visualiser les choses, peut-être, redécouvrir les choses. Alors nous avons déjà dit la dernière fois, au travers du témoignage de Saint Justin que nous avons écouté, qu'il y a toujours deux aspects, deux moments inséparables, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Donc liturgie de la parole et liturgie eucharistique constituent ensemble un seul et même acte du culte. En effet, la table dressée pour nous dans l'Eucharistie est à la fois celle de la parole de Dieu et celle du corps du Seigneur. Donc cette double table rejoint la scène du Seigneur. Si on observe les quatre évangiles, il y en a trois qui racontent l'institution de l'Eucharistie, les trois synoptiques. Et le quatrième évangile, l'évangile de Jean, développe tout le discours de Jésus à cette occasion. Donc nous avons toujours le sacrement et l'enseignement ensemble dans cette soirée, cette sainte soirée. Et Jésus lui-même réunit ces deux aspects lors de sa manifestation aux disciples d'Emmaüs, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Il partage d'abord amplement la parole avant de rompre le pain. Alors nous allons reprendre ensemble ces deux parties pour saisir le mouvement du culte qui s'y réalise. Alors, avant la liturgie de la parole, il y a d'abord une phase de rassemblement. Alors, le mot « église » lui-même signifie « convocation ». L'Église se manifeste quand elle répond à cette convocation du Seigneur, l'invitation du Seigneur à se rassembler. C'est là qu'elle devient vraiment Église. Alors, comme dans toute communauté chrétienne, Jésus est présent spirituellement. Quand deux ou trois sont là en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est la tête du corps. C'est lui-même qui est l'acteur principal de l'Eucharistie. Il est le grand prêtre de la Nouvelle Alliance. C'est lui-même qui préside invisiblement toute célébration eucharistique. L'évêque ou le prêtre qui préside l'Assemblée, bien justement, la préside en le représentant, en représentant Jésus, tête du corps. Tous les fidèles ont leur part active dans la célébration, chacun à sa manière. Une participation qui se manifeste dans une ferveur commune, les réponses, les chants, les silences d'adoration et de contemplation, les divers services dans la liturgie. Alors dans la première phase de la célébration, ce moment du rassemblement, l'Église prend conscience de la présence du Seigneur. Elle entre d'abord dans une démarche pénitentielle de préparation avant de vivre un moment de louange dans le chant d'une gloire à Dieu, sauf dans les temps de pénitence, l'Avent et le Carême. Alors cette phase préliminaire s'achève avec la prière de la collecte, l'oraison, prononcée par le prêtre au nom de toute l'Église. Alors toutes les prières que l'Esprit-Saint nous donne d'exprimer sont adressé au Père par Jésus-Christ. C'est bien sûr en lien avec la promesse de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, cela vous sera accordé. Donc nous demandons toujours au nom de Jésus. Voilà, mais c'est aussi et surtout dans la conscience que toute prière passe par Jésus. C'est lui qui est le contact entre l'humanité et la divinité. Alors après cette introduction, nous approchons ensuite de la table de la parole, la première grande partie de la célébration.
Alors,
il y a d'abord une phase d'écoute, de réception de la parole. Nous écoutons deux lectures et un psaume qui sont pris dans l'Ancien et le Nouveau Testament, des textes inspirés par l'Esprit Saint. La lecture de l'Évangile ensuite, la proclamation de l'Évangile qui nous met en contact avec la parole même de Jésus. Le célébrant fait ensuite une homélie qui exhorte à accueillir cette parole comme ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire pas seulement une parole humaine, mais la parole de Dieu, et qui nous invite à la mettre en pratique. Jésus nous instruit, comme autrefois il instruisait les foules, pour nous permettre d'entrer dans sa pensée, pour former notre foi. Alors parfois l'homélie fait le lien entre la parole de Dieu et un sacrement ou un mystère de la foi qui va être célébré. Nous disons alors qu'elle a une dimension mystagogique, elle nous introduit à un mystère. Lorsqu'un autre sacrement est célébré au cours de la messe, il s'insère généralement dans cette liturgie de la parole après l'homélie. Ça peut être pour un baptême, une confirmation, un mariage, une ordination. Alors après cette phase de réception de la parole, il y a une phase de réponse, une phase active de réponse à la parole au travers des paroles de l'Assemblée. D'abord, la communauté confesse ensemble sa foi au travers du symbole de la foi, le credo. Elle formule ensuite sa prière sous forme d'intercession pour les situations concrètes du temps où elle vit. La prière universelle, qui est vraiment la prière des fidèles. Dans notre communauté, nous avons la chance qu'elle soit vraiment préparée par les fidèles. Alors, toute cette première partie de la célébration, on l'appelle la messe des catéchumènes. Parce que c'est ce à quoi les catéchumènes ont le droit de participer. Ils sont supposés sortir avant la suite. Car ce qui suit, le mystère de l'Eucharistie, nécessite une initiation profonde, une initiation sérieuse, pour que, au-delà des signes visibles, les croyants perçoivent la dimension divine invisible. C'est moins évident qu'une parole que nous recevons. Il y a là des signes qu'il faut comprendre et intégrer. C'est pour ça qu'il faut une initiation. Alors, cette première partie de la liturgie se matérialise autour de deux grands axes. Il y a l'ambon, le pupitre pour la proclamation de la parole de Dieu, et le siège, d'autre part, c'est le lieu à partir duquel le prêtre préside l'assemblée et formule la prière. L'ambon et le siège. C'est seulement ensuite que nous nous tournons vers l'autel. Le troisième axe, lorsque nous nous dirigeons vers la table eucharistique, pour le deuxième grand pôle de la célébration. Dans la préparation des offrandes, l'offertoire, il y a un double mouvement. Le pain, le vin et l'eau sont apportés à l'autel, ce qu'on appelle les oblats. Le prêtre rend grâce pour ses dons. Et en même temps, l'assemblée s'unit spirituellement à cette offrande. Car c'est toute la vie de chacun et de tous qui doit entrer en phase avec le sacrifice du Christ. Le Christ s'offre et nous offre à son Père en lui. Cette unité dans le don se matérialise par la quête au moment de l'offertoire, qui manifeste la dimension de partage, de participation à la vie de la communauté. C'est pour cela que nous déposons les corbeilles de la quête devant l'autel. Même les pièces jaunes font partie de l'offrande, de notre offrande. Elles disent quelque chose de ce que nous donnons. Nous prenons conscience de cette offrande, l'offrande de chacun de nous qui va s'unir à l'offrande du Christ et qui passera par le ministère du prêtre. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous entrons alors dans la grande prière eucharistique, ce qu'on appelle l'anaphore en grec, la prière qui est portée en haut, parce que notre prière va monter vers le ciel et le don de Dieu va descendre vers nous. Le prêtre chante d'abord une grande prière d'action de grâce, la préface. L'Église rend grâce au Père par le Christ dans l'Esprit Saint, pour toutes ses œuvres, pour la création, pour la rédemption et la sanctification. Toute la communauté rejoint cette louange. C'est la louange incessante que l'Église céleste accomplit, hein, les anges et tous les saints, et que nous chantons, bien comme nous chantons ensemble, « Saint le Seigneur ». Nous chantons le Dieu trois fois saint en union avec toute l'Église du ciel. Dans l'Épiclèse, ensuite, elle demande au Père, l'Église demande au Père d'envoyer l'Esprit Saint sur le pain et le vin, afin qu'il devienne par sa puissance le corps et le sang de Jésus-Christ, mais aussi pour que ceux qui prennent part à l'Eucharistie soient un seul corps et un seul esprit. L'esprit descend à la fois sur les dons et sur la communauté, sur l'assemblée. Dans le récit de l'institution, la force des paroles et de l'action du Christ et la puissance de l'Esprit Saint rendent présents son corps et son sang, son sacrifice offert une fois pour toutes sur la croix. C'est le moment de la consécration, le cœur du changement. Dans l'anamnèse qui suit, l'Église fait mémoire, c'est le sens du mot anamnèse, elle fait mémoire de la passion et de la résurrection dans l'attente du retour glorieux du Christ Jésus. Tout autour de cette consécration, il y a des prières d'intercession qui récapitulent, pour ainsi dire, toutes les intentions de prière de l'Église. Nous prions pour les vivants, pour les défunts, pour toute l'Église, pour la hiérarchie avec laquelle nous sommes en communion, pour tous les fidèles, pour la paix, etc. Alors cette grande prière eucharistique se termine par une doxologie, c'est-à-dire le moment où nous récapitulons toute notre offrande pour rendre gloire à Dieu. Doxologie, c'est rendre gloire, dire la gloire de Dieu. Le prêtre soulève le corps et le sang du Christ pour les présenter au Père, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'Assemblée dit « Amen » très solennellement, parce que c'est, voilà, c'est le cœur de l'offrande. Le sacrifice est présent, il est accompli, il est offert au Père. Il y a ensuite trois effets, on peut dire, qui vont exprimer toutes les dimensions du don du Christ pour nous. Le premier effet, c'est que nous pouvons désormais appeler Dieu notre Père. Le sacrifice du Christ nous a sauvés du péché. Il a rétabli le lien entre Dieu et nous. D'une manière encore plus élevée que Adam et Ève avant la faute, nous sommes en famille avec Dieu, en participant à la vie de son Fils unique. C'est son Esprit en nous qui nous permet de dire notre Père, de dire cette prière. Le deuxième effet, c'est la paix qui est rétablie. La paix entre Dieu et l'humanité et la paix qui découle entre nous. Cette paix qui n'est pas le fruit de nos efforts, mais d'abord le don de Dieu. C'est l'amour du Christ qui a vaincu toute forme de haine et de division. Après la fraction du pain, matériellement, le troisième effet, c'est bien sûr la communion au corps du Christ, la communion sacramentelle. Nous devenons ce que nous recevons, le corps du Christ, nous qui croyons en lui et qui vivons selon son évangile. Saint Paul a déjà averti du sérieux de cette démarche de communion. Dans la première lettre aux Corinthiens, je vais citer, « Celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d'une manière indigne devra répondre du corps et du sang du Seigneur. » On doit donc s'examiner soi-même avant de manger de ce pain et de boire à cette coupe. Celui qui mange et qui boit, mange et boit son propre jugement, s'il ne discerne pas le corps du Seigneur. Nous avons déjà parlé un petit peu la dernière fois de ces conditions pour communier, dont Saint Justin parlait aussi. Hein. Saint Justin en parlait dans son témoignage. Alors les fidèles peuvent recevoir cette communion à chaque fois qu'ils participent à la liturgie, s'ils sont justement dans les dispositions qui conviennent. Alors cette communion, elle a beaucoup d'effets dans notre vie, évidemment. D'abord, elle accroît notre union au Christ, bien sûr. mais elle nous donne aussi la force pour nous séparer du péché, pour lutter face à nos inclinations au péché, pour lutter face à nos fragilités. Elle fait grandir l'amour en nous, et de ce fait, elle efface même les péchés véniels, les péchés légers. Dans la force de cet amour, elle nous préserve des péchés mortels futurs, des péchés graves. Car plus nous participons à la vie du Christ, plus nous progressons dans son amitié, plus il nous est difficile de rompre avec lui par le péché. C'est un peu logique. Nous reviendrons sur ces notions de péché, je pense, la prochaine soirée. L'Eucharistie nous fait aussi sentir concrètement l'unité de l'Église qui se réalise en Jésus et entre nous. Après cette grande liturgie eucharistique, la célébration se termine assez rapidement avec une dernière bénédiction de l'Assemblée et l'envoi en mission, d'où le mot « messe » justement. Nous sommes envoyés vers le monde pour vivre et partager la bonne nouvelle avant d'être à nouveau convoqués pour la prochaine célébration. Ce sont comme les pulsations d'un cœur qui font vivre dans la joie tout le corps de l'Église et qui nous font progresser pas à pas jusqu'au banquet de l'éternité. L'Eucharistie est vraiment la source et le sommet, le cœur de la vie chrétienne.